Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallam, tasliman kathira amma ba'd. Donc, ensuite il dit, wa sara nahwa shami ashraful wara, fi aami 25 dhkura. Donc ici, vers le Cham, la mère des créatures se rendit à l'âge de 25 ans, il a été dit. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit une deuxième fois, donc, au Cham. Et donc, cette fois-ci, donc, l'auteur mentionne, donc, le deuxième voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le Cham. Et, alors qu'il avait 25 ans, c'est un voyage, donc, pour commercer avec l'argent de Khadija radiallahu anha. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu, donc, se rendit vers le, donc, au Cham pour commercer avec l'argent de Khadija radiallahu anha. Donc, elle avait entendu du bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un comportement, un bon comportement, qu'il était loyal et qu'il était fiable et véridique. Elle a donc voulu commercer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il alla vers le Cham. Et Ibn Kathir mentionne, ensuite il voyagea une seconde fois pour commercer avec les biens de Khadija bint Khuwaylid en présence de son serviteur Maysara. Avec comme condition, donc, de partager ses bénéfices avec donc l'argent de Khadija. Donc, et donc son serviteur, donc Maysara, vit donc des choses incroyables et étonnantes dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il retourna informer Khadija radiallahu anha. Et elle donc, elle souhaita ensuite se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se maria avec Khadija, il avait 25 ans et Khadija en avait 40. Donc Khadija avait 40 ans. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint du voyage avec les biens de Khadija et le commerce fut fructueux. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait mis de la baraka dans celui-ci. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint heureux et se réjouissait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait facilité durant ce voyage. Ensuite, son mariage avec, donc, Khadija. Donc, il se maria, sallallahu alayhi wa sallam, avec Khadija, et il consomma le mariage. Et il faut savoir que Khadija, donc, fut la première femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il maria aucune autre femme jusqu'à ce qu'elle mourût, radiallahu anha. Et il faut savoir que cette femme-là avait de nombreux mérites et de multiples spécificités. Parmi celles-ci, ce qui a été rapporté dans cela, c'est le hadith de Aïcha radiallahu anha dans lequel elle dit, donc elle dit, je n'ai jamais été jalouse d'aucune épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme je l'ai été pour Khadija radiallahu anha, alors que je ne l'ai jamais vue. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de parler d'elle. Et parfois, il sacrifiait sallallahu alayhi wa sallam une brebis, la découpait et la faisait parvenir aux amis de Khadija radiallahu anha. Et parfois, je lui disais, on dirait qu'il n'y a aucune autre femme ici-bas, c'est-à-dire dans cette dunya, que Khadija. Il répondait, elle était comme ceci, elle était comme cela, et j'ai eu des enfants avec elle. Ensuite, c'est donc ses enfants. Donc il dit ici, وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم. Donc ici وولد c'est le جمع de le pluriel de ولد. On dit donc ولدون ولدون. Donc ici on va parler donc des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a eu avec Khadija. Donc il dit, ses enfants sont d'elle, à l'exception d'Ibrahim le premier, celui qui reçut les honneurs fut Al-Qasim. Donc il faut savoir que al-walad, ici ça concerne les filles et les garçons. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, yusikumullahu fi awladikum lidh-dhakari mithlu hadhil unthayayn. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants, aux fils, une part équivalente à celle de deux filles. Donc tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient de Khadija, sauf Ibrahim. À l'exception d'Ibrahim qui était de Maria la copte. Donc tous les autres enfants étaient de Khadija, radiallahu anha. Et le premier de ces enfants était Yani Al-Qasim. Donc il s'appelait Al-Qasim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit donc cette kunya. On l'appelait Abul Qasim. Donc c'était la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'était son premier enfant. Ensuite, wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatima wa Umm Kulthumin lahum aw lahunna Khatima. Donc il dit ensuite Zainab, Ruqayya et Fatima et Umm Kulthum la Sala, c'est-à-dire elle vient en dernier. Donc ce sont les quatre filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc quatre filles. Et elles ont toutes embrassé l'islam et ont émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a été rapporté donc avec une chaîne de transmission remontant à Ibn Abbas qu'il dit donc le premier enfant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est né à la Mecque avant la révélation fut Al-Qasim. Et il prit donc son nom comme kunya. Puis il eut Zainab, puis Ruqayya, puis Fatima, puis Kulthum. Puis durant l'islam, il eut Abdullah. Et il fut appelé le bon et le pur. Et leur mère à tous était Khadija, donc bint Khuwaylid. Donc c'est-à-dire que Kulthum est la plus jeune des filles. Néanmoins, les savants ont mentionné qu'il y a une divergence dans cela avec Fatima. Certains savants ont dit que Fatima, c'était la plus jeune des filles, et d'autres ont dit que donc c'était Kulthum. Ibn Abdelbar al-Maliki dit concernant cela, والاختلاف في الصغرى من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير والاختلاف يعني في أكبرهن شذوذ والصحيح أن أكبرهن زينب. Donc ici Ibn Abdelbar mentionne qu'il y a donc il y a de nombreuses divergences donc à propos de qui est la plus petite fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la plus grande des filles, la divergence dans cela est faible. Donc, et ce qui est authentique est que leur aînée, donc la plus grande des filles, est Zainab. Et Ibn Hajar dit dans Al-Fath, والمتفق عليه من أولاده منها القاسم وبه يكنى مات صغيرا قبل المبعث أو بعده وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم كلثوم ثم فاطمة وقيل كانت كلثوم أصغر من فاطمة. Donc ici Ibn Hajar al-Hafidh rahimahullah dit donc ceux qui font l'objet d'une unanimité parmi ses enfants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec Khadija, il y a Al-Qasim, et il a pris sa kunya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut appelé Yani Abul Qasim, et il mourut jeune, avant ou après la révélation. C'est-à-dire qu'il y a une divergence dans ça. Est-ce qu'Al-Qasim est mort avant la révélation ou après la révélation? Et il avait quatre filles, Zainab, puis Ruqayya, puis donc Kulthum, puis Fatima. Et ici, donc il mentionne qu'il y a un khilaf entre Fatima et Kulthum. Certains disent Kulthum c'est la dernière et d'autres disent que c'est Fatima. Donc pour répéter, bismillah, les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu Al-Qasim, ensuite Zainab, ensuite Ruqayya, ensuite Fatima, ensuite Kulthum. Et d'autres ont dit que c'était d'abord Kulthum, puis Fatima. et ensuite Abdullah. Donc ensuite il dit والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي, c'est-à-dire que ici il dit et Abdullah le pur le bon, et il a été dit que chaque nom à un individu radieux correspond, c'est-à-dire que certains, donc les gens de science ont dit que Abdullah, qui était le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'appelait, donc il l'appelait le pur et le bon. Certains savants ont dit que le pur et le bon étaient deux autres fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, l'auteur a mentionné cette parole-là pour donc évoquer le khilaf, dans cela la divergence, qui est une divergence qui est faible. Mais en réalité, Abdullah c'est le pur et le bon. Donc c'est lui qui a été nommé ainsi. Donc ce qui signifierait, selon cet avis, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 4 fils avec Khadija. Néanmoins, cela est un avis faible. Ensuite, il dit والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام. C'est-à-dire que tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont goûté à la mort de son vivant. Ils sont tous morts du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Fatima, qui est morte 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc subhanallah, regardez l'épreuve des prophètes. Tous ses enfants sont morts, sauf sa fille Fatima, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les savants ont mentionné que certains moururent avant la révélation, et d'autres après la révélation, ou d'autres après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de Fatima qui est morte, donc 6 mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha. Et il y a deux hadiths authentiques qui ont été rapportés concernant cela. Donc d'après Aïcha radiallahu anha, le premier, elle dit, donc certes Fatima donc mourut 6 mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième hadith, Aïcha radiallahu anha dit, Fatima donc est arrivée en marchant de la même manière que marchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bienvenue à ma fille. Puis il la fit s'asseoir donc à sa droite ou à sa gauche, et il lui dit quelque chose secrètement. Et elle pleura. Aïcha lui dit, pourquoi pleures-tu? Puis il lui dit quelque chose donc secrètement, et elle rit. Aïcha a dit, je n'ai jamais vu une joie si proche d'une tristesse, si ce n'est, et ni ce jour-ci. Je lui ai donc demandé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Elle répondit alors, je ne dévoilerai pas le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il meure, c'est-à-dire après sa mort je le dévoilerai. Et ensuite je l'interrogerai, ensuite Aïcha radiallahu anha a interrogé donc Fatima, elle répondit alors, il m'a dit secrètement, certes, Jibril me faisait répéter le Coran une fois chaque année. Et certes, il me l'a fait répéter 2 fois cette année. Tout ce que je pense, c'est que mon terme est arrivé. C'est-à-dire que je vais bientôt mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je vais bientôt mourir. C'est-à-dire mon terme est arrivé. Et tu seras la première de ma famille à me rejoindre. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit cela. J'ai alors pleuré. Il dit alors, agréerais-tu d'être la maîtresse, c'est-à-dire Seyyida, des gens du paradis et des croyantes? J'ai ri pour cette raison. Ensuite, il a été rapporté, donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 35 ans, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam assista et participa à la reconstruction de la Kaaba. Donc il dit وبعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما اندثر. C'est-à-dire à 35 ans, il a assisté sallallahu alayhi wa sallam à la reconstruction de la maison d'Allah, de la Kaaba, lorsqu'elle fut endommagée. Ibn Ishaq ici mentionne, donc lorsque le messager d'Allah eut 35 ans, Quraysh se réunit donc pour reconstruire la Kaaba. Et il faut savoir que la Kaaba a été endommagée à cause d'une forte inondation qui avait eu donc à cette époque-là. Et les fondations de la Kaaba avaient été donc affaiblies. Et cela a nécessité donc sa reconstruction. Donc la reconstruction de la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam assista à cela. Et il a même été prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc porta des pierres et participa à sa reconstruction. Comme cela a été rapporté dans Al-Bukhari wa Muslim, selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, donc il dit, lorsque la Kaaba fut reconstruite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abbas donc partirent pour donc transporter les pierres. Et Abbas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mets ton izar sur ta nuque, il te protégera donc des pierres. Il tomba alors au sol, sallallahu alayhi wa sallam, ses yeux se levant vers le ciel, puis il se réveilla en disant, mon izar, on lui jeta alors son izar. Donc ceci est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam participa à la reconstruction de la Kaaba. Et il faut savoir que parmi les événements qui se sont passés à ce moment-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pris comme juge, yani pour, entre les différentes tribus de Quraysh, yani afin d'arbitrer, de juger entre eux, par rapport, yani à la pierre noire, pour placer la pierre noire. Donc ensuite l'auteur dit, wa hakamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dhak al-hajari al-aswadi tham. Donc ils lui demandèrent de juger et se satisfaire de ce qu'il jugea pour placer la pierre noire à ce moment-là. Donc il faut savoir qu'il s'est produit une grande dispute entre les différentes tribus de Quraysh à l'époque du prophète donc sallallahu alayhi wa sallam. Au moment de placer la pierre noire, c'est-à-dire qu'ils avaient reconstruit la Kaaba, au moment lorsqu'ils sont arrivés au coin de la pierre noire, ils ont commencé donc à se disputer pour savoir qui allait la placer en premier. Et donc, chacun voulait s'approprier cet honneur-là, et c'est la raison pour laquelle ils se sont disputés donc durement. Et c'est là qu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va voir maintenant, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de juger entre eux, et ils ont agréé son jugement. Ibn Ishaq a dit, puis les tribus de Quraysh, donc, réunirent les pierres donc pour reconstruire la Kaaba. Chaque tribu, donc, faisait cela de chacun de son côté. Puis, ils la construisirent jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à l'endroit, c'est-à-dire du coin où il y avait la pierre noire. Et ils se disputèrent à son sujet. Donc, chaque tribu voulait mettre la pierre noire à son endroit. Et il faut savoir que donc, chaque tribu voulait mettre la pierre noire à son endroit au point où ils se disputèrent jusqu'à s'entretuer. Subhanallah al-Azim. Donc après, il y en a un parmi les Banu, yani Ad-Dar, yani Abd Ad-Dar, yani qui a apporté un récipient qui était rempli de sang. Et ils ont conclu, yani dans cela, un pacte avec les Banu, yani Adi, Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay. Yani ils ont conclu un pacte de combattre jusqu'à la mort et ils plongèrent leurs mains dans le récipient yani rempli de sang. Et ils furent nommés les lécheurs de sang. Et Quraysh, donc les différentes tribus, sont restées ainsi pendant 4 ou 5 jours. Et ensuite, ils se sont réunis à la mosquée. Et pour se consulter. Et certains rapporteurs prétendent que Abu Umayya ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzoum, qui était le plus ancien des Quraysh et le plus âgé, il dit au peuple de Quraysh, donc prenez au sujet de votre divergence, yani un juge qui jugera entre vous. Et il dit, le premier qui sort de la mosquée, le premier qui passe la porte, prenez-le comme juge. Et subhanallah al-azim, le premier qui est sorti était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils dirent, voilà Mohammed. Yani, voilà le digne de confiance. Yani, nous sommes satisfaits. Voilà Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsqu'il est arrivé à leur niveau et ils l'ont informé de ce qui se passait, donc, il dit, apportez-moi un drap, c'est-à-dire un morceau de tissu. Et on le lui apporta. Il prit la pierre, c'est-à-dire la pierre noire de ses mains, et la posa dessus. Et il dit que chaque tribu prenne un coin du tissu, c'est-à-dire du drap, et ils l'apportèrent alors tous, jusqu'à ce qu'ils atteignissent ensemble son emplacement, et il l'y plaça de sa main, sallallahu alayhi wa sallam, puis la reconstruction de la Kaaba a pu se poursuivre. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé à 40 ans. Donc il avait 40 ans lorsqu'il reçut la révélation sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa ba'da 'ami 40 ursila fi yawm al-ithnayn yaqinan fanqula. Donc une fois qu'il eut 40 ans sallallahu alayhi wa sallam, il reçut la révélation et il a été envoyé comme miséricorde pour les mondes et il a été envoyé comme annonceur et avertisseur pour toute l'humanité. Et cela a été donc relaté par Ibn Abbas et Jubair ibn Mut'im, comme cela a été rapporté dans le Bukhari et Muslim, selon Ibn Abbas, qui dit « Bu'itha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au unzila alayhi al-Qur'an wa huwa ibn arba'ina sana » Donc, il dit فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين. Donc il dit, le messager d'Allah fut envoyé à 40 ans. Il resta 13 ans à la Mecque et la révélation lui venait. Puis l'émigration lui fut ordonnée et il émigra, donc, puis resta 10 ans à Médine. Et il mourut à 63 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Et la révélation, donc, est descendue, donc fut un lundi. Et il n'y a aucune divergence dans cela. C'est-à-dire, cela fait l'objet d'une unanimité entre les savants. Comme cela a été rapporté selon Abi Qatada, radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé pour donc le jeûne du lundi, il dit ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. Donc c'est en ce jour que je suis né et c'est le jour dans lequel j'ai été envoyé ou durant lequel la révélation m'est venue. Donc il n'y a aucune divergence dans cela, comme quoi c'était un lundi. Ensuite, la divergence au sujet du mois de l'envoi, c'est-à-dire que les savants ont divergé quant au mois de l'envoi ou de la révélation. Donc il dit ici fi ramadana aw rabi'i aw rabi'in al-awwal wa suratu iqra awwal al-munazzal. C'est-à-dire que en Ramadan, c'est-à-dire durant le Ramadan ou Rabi' al-Awwal, et la sourate li, c'est-à-dire Iqra, fut la première révélation. Donc ici, l'auteur ici fait allusion à la divergence qu'il y a entre les savants concernant le mois donc dans lequel fut envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit que c'était pendant donc le Ramadan et certains ont dit que c'était Donc, Rabi al-Awwal. Et on va mentionner maintenant la date exacte, bi'idhnillah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, il n'y a aucune divergence quant au fait que son envoi eut lieu un lundi. Mais ils ont divergé sur le mois de son envoi. Il a été dit que c'était le 8 de Rabi al-Awwal, 41 années après l'année de l'éléphant. Donc le 8 de Rabi al-Awwal, 41 années après l'année de l'éléphant, et ça c'est l'avis de la majorité des savants. Et d'autres ont dit que c'était pendant le Ramadan. Donc ils ont dit que ceci eut lieu pendant durant le Ramadan. Et ils ont pris comme preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Donc, ils ont dit que la première fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, honora le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la prophétie, ce fut avec la descente du Coran. Et c'est l'avis d'une partie des savants. Mais ceux qui ont dit que c'était le 8 de Rabi al-Awwal, yani ils ont dit que le Coran est descendu en une fois, yani le Coran est descendu en une seule fois durant le Ramadan, pendant la nuit du destin, dans la maison de la puissance. Yani Baytul Izzah. C'est-à-dire que le Coran est descendu en une fois, pendant le Ramadan, pendant la nuit du destin, dans la maison de la puissance. Et ensuite, il fut descendu par petites parties selon les événements. Ça, ceux qui ont dit qu'il est descendu le 8 de Rabi al-Awwal, 41 années après l'année de l'éléphant. C'est-à-dire que la première fois, le Coran, il est descendu dans son entièreté, donc pendant le Ramadan, mais après, il est descendu petit à petit selon les événements. Et donc il a été rapporté que la sourate, donc Iqra, lit, donc ce fut la première révélation parmi les sourates du Coran révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela a été rapporté par Aïshata radiallahu anha, wa suratu Iqra awwalul munazzali. Donc, la sourate Iqra est la première à avoir été révélée.
Ça fait combien de temps?
Et on dit. Ensuite, vint donc l'enseignement de Jibril, donc des ablutions et de la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci concerne donc le début de la révélation. Ibn Ishaq donc rapporte que certains gens de science lui ont dit: lorsque la prière fut prescrite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril lui vint alors qu'il était dans la partie la plus élevée de la Mecque. Et il frappa alors de son talon, c'est-à-dire une vallée, et une source jaillit de celle-ci. Et donc Jibril commença donc à faire ses ablutions, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'observa. Ensuite, afin qu'il lui montre justement la purification pour la prière. Et puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit ses ablutions comme il avait vu Jibril le faire. Et puis Jibril se leva et dirigea la prière. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pria en suivant la prière de Jibril. Et puis Jibril s'en alla. Et puis il est revenu, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu chez Khadija, il a pris ses ablutions pour que Khadija voit comment il fait ses ablutions, et il pria pour qu'elle voit comment il priait. Néanmoins, cette histoire, As-Suhay, il dit dans Al-Rawd Al-Unuf, yani ce hadith est interrompu, c'est-à-dire que sa chaîne de transmission n'arrive pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est interrompue. C'est-à-dire que c'est faible. Et il dit qu'on ne peut pas s'appuyer sur cela. On ne peut pas s'appuyer sur cette histoire-ci. Donc on ne peut pas prendre cela comme une base et s'appuyer sur cela dans les règles de la législation. Et il a été rapporté de la manière liée jusqu'à Zayd ibn Haritha, qui le fait remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith tourne autour de, donc, Abdullah ibn Lahi'a, qui a été rendu faible par les savants du hadith. Et le hadith de Zayd, auquel il fait mention, est rapporté par l'imam Ahmad ibn Majah al-Hakim et d'autres. D'après Zayd ibn Haritha, l'affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donc, Jibril enseigna les ablutions et la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il termina ses ablutions, il prit une poignée d'eau et aspergea, yani ses parties intimes. Et il faut savoir que ce hadith-ci, Cheikh l'Albani rahmatullah alayhi le rapporte dans la silsila sahiha, c'est-à-dire dans son livre de hadith authentique. Après cela vint quoi? Les djinns qui ont été frappés par les étoiles filantes. Et ce 20 jours après la révélation. C'est-à-dire 20 jours après la révélation, les djinns ont été frappés par les étoiles filantes. Il dit ici, ثم مضت عشرون يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. C'est-à-dire, puis 20 jours complets passèrent et les djinns furent frappés par des étoiles qui les effrayèrent. Donc 20 jours après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les djinns qui écoutaient, c'est-à-dire dans les cieux, les informations, c'est-à-dire les djinns qui essaient de tirer des informations des cieux, ont été frappés donc par les étoiles filantes. Et Allah dit concernant cet événement dans Sourate al-Jinn, nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Nous y prenions place pour écouter. Mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui, c'est-à-dire un bolide aux aguets. C'est-à-dire que ils furent frappés par des étoiles filantes et des météores. Et Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dit, les savants de la biographie dirent, Quraysh vit des étoiles avec lesquelles ils sont lapidés 20 jours après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Quraysh ont vu ces étoiles filantes qui ont lapidé les djinns. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا